Si on a quelque chose en commun, moi, Audrey, c'est bien l'amour des animaux.
Oui.
On a tous les deux un Golden Retriever qu'on aime bien qualifier de personnage très particulier.
Des patates!
Comment?
Des patates! Sont comme soit vraiment intelligents, soit vraiment innocents. Ça dépend des jours.
Oui, mais dans le même corps.
Oui.
C'est ça qui est hallucinant. Puis tout dépendait des situations dans lesquelles ils sont. Moi, j'ai un Golden Retriever qui parfois considère que son plancher, exemple dans le salon, lui appartient.
Oui, c'est son espace.
Quiconque pile sur son plancher, sauf ses chats, ses frères et sœurs, là, parce qu'il y a deux frères et sœurs. Si les chats pilent sur son plancher, c'est correct. Mais s'il y a un être humain qui pile sur son plancher, là, il commence à grogner.
C'est fou, hein?
Ouais. Là, ouais. Il dit, Lucky, c'est correct. Puis là,
tout
il arrête.
Est beau. Hey, c'est tellement nono. On les aime.
Puis là, on s'en va dans la cuisine, on revient sur son plancher, il regrogne. C'est n'importe quoi.
Mais là, tu sais, il a l'air particulier. Tu vois, le mien, je le qualifie d'un peu plus intelligent quand même. Là.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on se comprend mieux. Il grogne pas après moi quand je rentre dans la maison.
Jamais?
Jamais.
Puis il grogne-tu après toi pour la bouffe, exemple?
Jamais.
Ah, oh, ouais.
Mais c'est quelque chose qui me faisait peur, ça, en vue d'une famille. Fait que je veux dire, puis écoute, c'est peut-être des mythes, là, mais nous autres, on nous disait, reste proche quand tu es dans sa bouffe. Tu essaies de. Gosse-le le plus possible.
Ah, d'après moi, ça, tu l'as appliqué.
Absolument. Du mieux que je pouvais. Je l'ai assez gossé qu'aujourd'hui, patate, il écoute. Ah oui, on n'a pas trop de troubles avec.
Bon, puis on a posé une question avant la pause parce qu'on va rencontrer une vétérinaire dans les prochaines secondes. Puis on a posé la question aux auditeurs. Si vous avez des assurances pour vos animaux de compagnie, comment ça peut vous coûter? Moi, j'avais entendu entre 25 et 35 $. Puis il y a des auditeurs qui nous ont écrit autour de 30, 28. Mais on me dit, dans les dernières secondes, que ça pouvait dépendre de l'âge de l'animal, bien entendu.
Il y a plein de facteurs.
C'est très, très, très logique. Donc, on a le plaisir de recevoir en studio Natacha Barrette, qui est mon vet à la maison. Salut, Natacha.
Oui, salut.
Merci beaucoup d'être là. Est-ce que c'est une première pour toi, la radio?
La radio en studio, oui, c'est la première fois.
Ouais. C'est combien d'années que tu es vétérinaire?
Écoute, j'ai gradué en 92, j'avais 22 ans. Donc, ouais. Ça fait quand même un petit bout. Là.
Toujours aussi passionné?
Ah oui, j'adore mon métier.
Puis,
ouais.
Au départ, là, tu voulais être vétérinaire, parce qu'il y a plusieurs types de vétérinaires. Là.
Mm-hmm.
Moi, j'en ai connu en Beauce qui font juste, c'est des spécialistes des grosses bêtes. Là.
Ouais.
Toi, tu voulais être vétérinaire spécialisé ou vétérinaire pour tout le monde, mettons?
Je voulais être une vétérinaire généraliste. Faut dire que quand j'ai gradué en 92, là, ce qui nous ramène quand même plus de 30 ans, il y avait beaucoup moins de, je dirais, de spécialistes. Là. C'était moins quelque chose auquel on aspirait. Ceci dit, je ne dis pas que ce n'était pas dans l'idée des gens, mais si on voulait le faire, il fallait absolument aller aux États-Unis. Puis là, ben, ça devenait quand même un gros contrat, là, puis beaucoup de sous. Là, on sait c'est quoi étudier aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, la réalité a quand même beaucoup changé. Là. Il y a des gens qui peuvent se spécialiser tout en restant au Québec et même à Québec. Là. Fait que, j'ai une collègue là, qui est devenue spécialiste en dentisterie vétérinaire. Elle a fait sa formation ici même. Là.
C'est un dentiste pour les animaux.
Ouais, ben oui, ça existe.
En vrai, dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, un vétérinaire s'occupe de tout. J'ai jamais pensé aux différentes spécialités.
Il y a des vétérinaires généralistes comme moi qui faisons de tout. Là. On est des dermatologues, des chirurgiens, name it, là, toutes les spécialités que tu peux imaginer, on se doit d'à peu près toutes connaître. Parce que le patient qui nous arrive, il peut avoir un problème dans toutes ces sphères-là. Là. On est aussi des psychologues, des travailleurs sociaux.
Pour les humains ou pour les animaux?
Pour les animaux. parce que, ben, tu sais, l'animal, jusqu'à preuve du contraire, ne viendra pas tout seul en clinique. Il va être accompagné de son humain. Puis on sait ce que c'est les humains. Hein. Il y en a qui nous aident beaucoup, puis il y en a qui nous aident beaucoup moins. Parce que c'est eux qui doivent nous dévoiler ce qui observe à la maison, mais encore faut-il qu'il l'observe ou qu'il ait la capacité de comprendre ce qu'il observe, que c'est un problème en soi. Bref, on est un peu à la merci de ça. Donc, moi, je suis généraliste, mais j'ai plusieurs de mes collègues, de mes amis collègues qui sont des spécialistes dans différents domaines.
Okay.
Une de mes meilleures amies est oncologue, elle travaille à Laval.
Oui.
Fait pour les cancers chez les animaux.
Bien sûr, ben oui.
Y a-t-il des... Hey, là, ça va avoir l'air vraiment nono comme question, mais y a-t-il des traitements pour le cancer chez les animaux?
Bien sûr! Ah oui, ça, là, c'est tout un monde. Là. Surprenamment, les gens, tu sais, ils voient ça toujours comme « Oh non, je ne ferai pas subir ça à mon animal. » Tu sais, là, on s'imagine, on fait beaucoup d'anthropomorphisme, on se met à leur place. Mais souvent, les plans de traitement ont beaucoup moins d'effets secondaires que chez les humains. Bon, dans certains cas, ce n'est pas toujours curatif. Là. Des fois, c'est palliatif. Mais tu sais, si on donne à un animal, mettons, une année de vie de plus, là, bien, il est supposé de vivre 10 ans. Si j'en donne une de plus, c'est 10 % plus long. Là. Puis pour le maître, ça permet... parce que là, moi, je travaille surtout en fin de vie, comme on pourra discuter éventuellement, mais moi, je la vois, la différence. Les gens qui requièrent mes services d'euthanasie à domicile, quand ils ont eu un oncologue qui les a accompagnés des soins pour leur animal, ils s'assuraient évidemment toujours que c'était pour le bien de l'animal au départ, mais c'était aussi une façon qu'ils avaient de se préparer à ce qui s'en venait. Mmh. Puis ça fait toute la différence.
Ah, ça fait vraiment une différence. Puis quand on va faire euthanasier un animal, puis on connaît la date, on peut le gâter avant cette fameuse date-là. Tellement d'histoires tristes, des fois, que je vois passer sur les réseaux sociaux, peut-être en raison de mon algorithme, là, parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Puis je vois des gens qui ont perdu, tu sais, sont réveillés un matin, puis le chien ou le chat était décédé. Ouais. Tu sais, t'as pas le temps de dire bye-bye.
Ouais, mais ça, c'est pas le pire scénario. Ça, je te dirais, personnellement, ça demeure un scénario avec lequel on finit quand même par faire la paix. On se rappelle du chat, on se rappelle effectivement de l'avoir trouvé décédé, mais on se rappelle pas de drame autour de son... à part la découverte de son corps.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé longtemps en urgence. C'est beaucoup plus dramatique quand t'as un client qui arrive avec son animal puis qui pense pas qu'il y a quelque chose de grave, qui s'attend à ce qu'on lui dise « Ah, ça va guérir avec tel médicament, vous pouvez repartir chez vous », mais que non, 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 on leur annonce quelque chose de grave pour lequel ils doivent prendre une décision rapidement. Et on doit parler d'argent aussi à travers tout ça. Tu sais, c'est loin d'être facile, c'est très explosif comme situation.
C'est qu'ils souffrent aussi. Tu sais, ce qui est spécial, on dirait, avec les animaux, c'est ça, c'est qu'on parle pas le même langage, là. On se comprend pas nécessairement, là, fait que, ben, en fait, on se comprend pas, point.
Ils nous parlent, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de communiquer.
Non, exactement.
Si on est attentif, il y a beaucoup de choses qu'ils nous disent.
Ouais. Ah, c'est ça. Écoute, je te crois complètement. Je suis la première à dire que des fois, j'ai l'air un peu débile, mais j'ai l'impression que moi et mon Golden, on se comprend 100%. Ah,
ben
mais j'ai le sentiment que souvent, ce qui fait mal aussi, c'est l'appréhension. Puis moi, si demain matin, j'apprends que mon chien, mettons, a un cancer puis souffre depuis des mois, puis j'étais juste pas au courant ou je l'avais pas remarqué pour mille une raison, j'ai l'impression qu'une culpabilité qui rentre en compte aussi, tu sais, de ne pas t'être rendu compte que, hey, mon animal a mal depuis ces mois-là, puis là, il va falloir qu'il décède, là.
Les propriétaires d'animaux de compagnie sont capables de détecter assez facilement s'il y a un changement chez leur animal. Tu sais, on parle pas la même langue, on va se le dire, mais on est capable de détecter au niveau corporel qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, mon chien, quand il me fixe, là, puis il est en face de moi, puis il est sur le bord, mettons, il est où la cuisine? Je sais qu'il veut sortir dehors. Puis à chaque fois, je dis « dehors », puis là, tu le vois qu'il est super excité d'aller dehors. Fait que, tu sais, je détecte ça, même si je n'ai jamais appris à détecter ça. Je voulais te poser une question avant de rentrer dans d'autres sujets, Natacha Barrette. Quand on t'apporte un animal, bon, tu sais, les chats, les chiens, c'est assez commun là, pour le vétérinaire. J'imagine que vous avez étudié pas mal tout le système des chats et des chiens. Mais quand on t'apporte, je sais pas moi, un gecko ou encore un serpent, tu fais quoi avec ça? Je veux dire, on sait pas commun comme animal.
Ouais, ben en fait, il y a peu de chances que ça arrive, dans le sens où le personnel qui prend les appels puis qui place des rendez-vous, ils savent très bien si l'entreprise, la clinique vétérinaire offre ce genre de service-là. Parce que c'est pas rendre service à un client et à son animal de le faire venir si le vétérinaire a aucune expertise sur les lézards, par exemple. Mais on parlait de spécialité tantôt. Il y a des cliniques vétérinaires qui sont spécialisées dans les exotiques. Il y a des spécialistes dans des centres de référence. Il y a des vétérinaires, parfois généralistes, qui ont un intérêt pour les exotiques sans être spécialisés, mais ils vont, à travers leur pratique plus standard canine-féline, intégrer les animaux exotiques. Ça, le personnel le sait, puis il va placer le rendez-vous avec la personne, tu sais, qui est à l'aise, parce que c'est tellement pas la même game soigner un lézard, qui est un animal à sang-froid, versus un chat, un chien. Puis tu sais, on a parlé tantôt là, qu'il faut qu'on soit des spécialistes de tout. Puis s'il faut qu'on soit spécialiste de tout, dans toutes les espèces, là, essayer d'imaginer la quantité d'informations, c'est impossible.
Quelqu'un t'amène une tarentule, là.
Ah, ben, il m'amène pas de tarentule, en fait.
C'est ça que j'allais demander, ça arrive-tu, ça?
C'est ça.
Il y en a des tarentules malades.
Oui, mais il y a des cliniques qui font ce genre de soins-là.
Wow.
Oui, c'est
particulier.
Puis si je peux me permettre, parce que hier, sur le groupe privé des vétérinaires du Québec, on est plus que 2000, je pense même 3000, j'ai posé la question à un collègue. Je me préparer, là, tu sais, là, j'ai fait mes petits devoirs. Puis il y a une vétérinaire spécialisée en exotique, justement, qui m'a donné... Je demandais, dans le fond, au vétérinaire, de quoi vous aimeriez, tu sais, que je parle. Puis si on parle d'argent, qu'est-ce que vous voulez aussi que je dise au public, là, tu sais, parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent. Pas juste pour les coiffeuses, finalement. C'est ça. Puis il y a une vétérinaire d'exotique qui m'a dit, hey, c'est important que tu dises que les gens, ils doivent s'informer avant d'adopter. Tu sais, tu vas pas, sur un coup de tête, t'acheter, mettons, une espèce exotique, surtout une espèce exotique, où l'environnement, tu sais, ça y prend-tu un vivarium, il mange quoi, où c'est que je vais acheter ça? Il y a tellement d'informations qu'on doit aller chercher. C'est vrai aussi pour les chats, les chiens, puis surtout si on veut une race en particulier.
Mais ça, c'est un méchant bon point, parce que moi, je sais pas, Yann, toi, mais moi, quand je suis allée chercher mon Golden, j'ai eu la chance de tomber sur une dame qui a un élevage dont elle prend excessivement soin. Mm-hmm. Puis elle me disait, sache que les Golden, c'est un des meilleurs chiens, puis bon, tout le positif, mais dysplasie d'ange, par exemple, ça se peut que ton chien soit pogné avec ça, puis qu'il y ait une opération à y avoir ou qu'il y ait des soins supplémentaires à donner. Tu sais, ça vient avec le contrat que tu signes quand tu décides de t'occuper de ton animal. S'il est sujet à certaines maladies ou sujet à certaines, blessures physiques, tu sais, il faut que tu sois prêt à assumer les conséquences de ça, là.
C'est tellement vrai. Je veux prendre un exemple aussi très concret. Moi, j'habite Limoilou, il y a un parc à chiens. Souvent, je passe avec mon chien, mais je vais pas parce que moi, Babette, elle fait 5 livres. Puis 5 livres, c'est comme plus un gros écureuil pour eux autres. Fait que j'ai pas le goût de m'en faire manger. Mais je regarde, tu sais, les chiens qui sont dans le parc à chiens, ça fait un beau reflet de c'est quoi les chiens à la mode. Puis le French Bulldog, le Bulldog français, là, c'est la grosse mode. Puis en passant, moi, il n'y a pas de race que j'aime pas, là. Tu sais, j'aime tous les chiens et tout ça, mais je suis quand même un professionnel de la santé. Donc, je regarde ça avec des lunettes différentes de monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. On les aime parce qu'ils ont le nez plat. Mais nez plat, ça veut dire aussi voie respiratoire très restreinte, difficulté à respirer. Donc, des problèmes de santé à venir qui peuvent être graves, là, tu sais. Fait que, tu sais, la personne qui succombe à l'envie d'avoir un beau petit Frenchie parce qu'il y en a partout, justement, puis qui n'a pas lu avant, puis qui n'est pas allé chez un bon éleveur, puis c'est toujours ça le danger quand une race est à la mode. Il y a plein de gens qui veulent produire, et là, je mets des guillemets autour de produire, de ces chiens-là, parce que là, il y a de l'argent à faire. Fait que les mauvais éleveurs, là, ceux qui font ça en broche à foin, ils commencent à s'improviser éleveurs de French Bulldog, tu sais. Mais les bons éleveurs, là, eux autres sont plus rares. Fait qu'on se ramasse avec plein de problèmes de santé. Puis évidemment, bien, ces problèmes de santé-là, les gens viennent chez le vétérinaire, puis bien évidemment, on le sait, ça coûte des sous. Puis là, bien, à un moment donné, ils trouvent que leur chien leur coûte cher. Fait que, tu sais, c'est des abandons, des euthanasies. Fait que, il faut s'éduquer avant.
Mais il y a comme une... Ça, là, c'est un point qui est vraiment... Puis je sens que ça change, mais... Tu sais, je vais penser, mettons, à mes grands-parents quand il y avait leurs animaux, là. Tu sais, la façon de traiter ton animal était différente. Oui. Puis moi, je veux dire, dans ma famille, on a toujours pris soin, mais je veux dire, de laisser le chien dehors à la journée longue, ça faisait partie de... Mais non, il aime ça, il est bien. Tu sais, dans toute la façon de traiter... Il y a un cancer, ben non, mais il vit juste 8 ans, anyway. Je ne mettrai pas 5 000 $ pour régler son cancer, il va mourir de toute manière. Tu sais, je veux dire, la mentalité était très, très différente parce qu'au final, c'est des animaux, tu sais, puis qu'on n'avait pas le même, je veux dire, lien peut-être qu'on a aujourd'hui de plus en plus avec un animal de compagnie. Fait que c'est sûr que des fois, l'argent, ça faisait peur aux gens parce que c'était comme, mais là, je vais-tu vraiment investir tous tes sous-là? Je suis-tu niaiseuse d'investir cet argent-là pour un animal qui ne me t'offre pas 50 $, tu sais?
Bien, écoute, moi, la chance d'être rendue dans la cinquantaine, c'est que j'ai vu passer quelques décennies de clients. Puis j'ai la chance aussi, je suis née dans une famille de vétérinaires. Fait que moi, mon père est un vétérinaire à la retraite. Il y avait un gros hôpital à Montréal. Il était parmi les pionniers, là, je dirais, de la médecine vétérinaire des animaux de compagnie. Il faisait de la chirurgie orthopédique à une époque où, je veux dire, on s'entend, il n'y avait pas beaucoup de monde qui offrait ça. Tout ça pour dire que j'ai vu, moi, j'ai grandi dans les cliniques vétérinaires, il y avait un bureau vétérinaire dans la maison. Fait que, tu sais, j'ai vu ça depuis ma naissance, en fait. Puis, effectivement, à l'époque, tu sais, les animaux avaient une utilité. Tu sais, tu avais une ferme, tu avais un chien pour le troupeau, tu avais des chats pour les souris. Tu sais, c'était des animaux utilitaires beaucoup plus qu'aujourd'hui ça peut l'être. Puis là, je parle des animaux de compagnie, évidemment. Tu sais, on n'aurait pas pensé justement avoir un gecko il y a 50 ans, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Fait que, tu sais, les choses ont beaucoup, beaucoup changé et la place de l'animal de compagnie a évolué et là, ils sont au cœur des familles. Moi, Babette, mon chien, là, elle couche dans mon lit. Je catine comme un humain, là, tu sais. Puis je sais, là, que bon, c'est un peu too much, mais je vis toute seule avec elle dans un loft de Limoilou. Tu sais, à un moment donné, là, c'est le seul être vivant à part mes plantes, là. Fait que, tu sais, c'est, mes enfants sont grands, fait que mon chien, c'est rendu ma vie. Fait que je les comprends, mes clients, là, quand ils me disent ça, je suis comme ça, moi aussi. Fait que la place est différente. Puis moi, si Babette, ben, elle a besoin de quelque chose, puis c'est même pas parce que je suis vétérinaire, c'est parce que je suis une maître responsable. Je vais faire les soins qu'elle a besoin. Mais il fut un temps où, c'est ça, il fallait que l'animal utilitaire, s'il n'était plus capable de courir, bien, c'est plate à dire, on ne va pas le nourrir pour rien. Ouais. C'est un peu une autre...
Puis il faut souvent consulter les spécialistes pour savoir si notre animal de compagnie souffre.
Bien, c'est sûr que nous, on a l'œil. Hein, ouais. Tu sais, je veux dire, quand ça fait longtemps que tu pratiques, même à tes débuts... Là,
un chat, ça cache ses douleurs.
Ah, les chats, c'est une espèce... Oui. Bien, tous les animaux qui, dans la nature, seraient des proies plus faciles, ont en eux l'instinct de cacher ces choses-là. Parce que si ça paraît que tu es malade, bien là, tu deviens encore plus susceptible d'être mangé, d'être, c'est ça, dérangé par d'autres espèces. Fait que là, ils ont l'instinct de cacher ça, mais ils l'ont gardé en eux, même s'ils n'ont plus besoin.
OK.
Deux questions rapides, Natacha Barrette. La première, est-ce que c'est vrai que les animaux bâtards, donc un chat croisé ou un chien croisé, ça dure plus longtemps en termes de vie qu'un animal de race?
Non. J'ai justement vu une étude, malheureusement, je ne pourrais pas vous citer la source parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je viendrais à la radio, fait que je ne l'ai pas conservée. Mais ils ont vérifié ça parce que c'est une affirmation qu'on entend souvent. Mais non, si on prend la race croisée la plus populaire, c'est le Golden Doodle, qui, en passant, n'est pas une race, mais un chien croisé, qu'on paye à gros prix, cependant. Ça, c'est une chose qu'on va parler tantôt d'argent, mais si je peux dire de quoi, quand vous payez 2 000 $ pour un chien croisé qui s'appelle Golden Doodle, bien, venez pas vous plaindre que les frais vétérinaires sont chers parce que vous venez de payer 2 000 $ pour un croisé, un bâtard. Ça, c'est une petite frustration de vétérinaire qui vient de sortir. C'est juste parce qu'on se le fait dire souvent. Un chien de race, Golden Doodle. Non, c'est pas un chien de race. C'est une création humaine. Puis oui, c'est cute. Puis tu sais, j'enlève rien au Golden Doodle. Puis les gens qui en ont, je vous aime, inquiétez-vous pas. C'est juste un peu frustrant parce que c'est pas la réalité. On peut pas appeler ça une race. Puis si la personne dit de façon erronée, je fais ça parce que je veux diluer la génétique, augmenter, tu sais, l'espérance de vie ou je ne sais quoi, c'est faux. Okay. Ça fonctionne pas
l'espérance
comme ça.
L'espérance de vie, elle a-tu augmenté dans les dernières années? Tu as quand même pas mal
les
d'expérience
dernières,
dans la cravate,
peut-être là? Pas, mais dans les dernières décennies, oui. Parce que c'est vrai pour les humains aussi. Là. Ouais. Et je veux dire, moi, quand j'ai gradué, là, à l'époque où j'étais encore étudiante, est arrivé dans la clinique un appareil à échographie. Hey, là, tu sais, on était tous énervés. Puis tu regardais ça, c'était comme une vieille télé des années 60. C'était des petits picots, tu sais. C'était pas la qualité d'aujourd'hui où tu as l'impression que tu vois des micro-détails incroyables. Mais, tu sais, à cette époque-là, c'était wow! Mais là, aujourd'hui, les cliniques vétérinaires, bien, peut-être pas les cliniques, mais les centres de référence, les centres d'urgence, ils sont maintenant équipés comme... Souvent, les hôpitaux le sont, avec des scans, des résonances magnétiques. Tu sais, je veux dire, on n'est plus à la même place.
Oui, puis la nourriture s'est améliorée aussi.
Oui, les soins en général, tout ce qui est préventif aussi, on a souvent fait ce qu'on appelle du curatif. On se croisait les bras puis on attendait que les animaux soient malades pour faire quelque chose. Mais là, de nos jours, les gens sont beaucoup plus conscients que si on prévient les maladies, si on fait voir son animal régulièrement, là, puis régulièrement, c'est pas tu sais, tous les semaines, là, c'est exemple une fois par année, bien, on peut prévenir des maladies. Chez le chat, là, on disait tantôt qu'il ne parle pas beaucoup, on ne voit pas vraiment. Bien, il y a une chose qui parle beaucoup, c'est quand tu pèses l'animal chaque année, puis qu'à un moment donné, il se met à perdre du poids sans raison. Là. Pas qu'on l'a mis au régime, là, mais tu sais, qu'il se met à perdre du poids. Puis là, on ne parle pas de perdre 3 livres. Là. Il a perdu 100 grammes, 200 grammes, c'est comme, oh!
C'est un indice.
Tu sais, je veux dire, ça, c'est un indice en soi. Mais s'il ne vient pas chez le vétérinaire se faire peser chaque année, on va passer tout droit.
OK. Puis ma deuxième question, on va y aller rapidement parce que je veux parler de plein d'autres sujets avec toi, Natacha Barrette. Quand est arrivée au Québec l'interdiction du dégriffage pour ce qui est des chats, tu t'attendais-tu à une telle montée là, dans la société? Les gens étaient bien fâchés envers les vétérinaires. Tu t'attendais-tu à ça?
je vais être honnête que je me suis préservée beaucoup de ça, dans le sens où je suis quelqu'un de très sensible. Et voir tous ces commentaires-là et bien d'autres qu'on voit régulièrement là, sur la médecine vétérinaire, c'est tellement nocif pour moi que je n'ai pas suivi ce dossier-là.
Parce qu'en résumé, quand on dégriffe les choses, comme si on se coupait les phalanges.
On ampute l'extrémité. La phalange qui porte l'ongle chez l'humain, c'est la phalange qui porte la griffe chez le chat. Donc, c'était une amputation de chaque doigt.
Mais ça avait levé, là, ça avait fait un tollé, puis visiblement, là, ça s'est estompé.
Ça s'est calmé, parce que comme n'importe quel changement, ça amène toujours des gens. Puis ceux qui parlent fort, c'est souvent ceux qui ne sont pas contents. Mais il y a plein de mes clients, moi, qui étaient hyper contents, là, tu sais, dans le sens où ils aiment les animaux, ils comprennent que... Il fut un temps où on n'avait pas la même bienveillance envers eux. Puis on les dégriffait pourquoi? On ne les dégriffait pas pour leur bien, on les dégriffait pour notre bien. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que ce n'était pas sans conséquence pour l'animal. Et finalement, on a remis en question, mais c'était super long. Là. Ça fait longtemps là, qu'on remettait en question le dégriffage, nous, les vétérinaires. Là. Mais même à l'intérieur, en passant de la médecine vétérinaire, entre nous, là, dans notre communauté, il y a des gens qui ne voulaient pas là, que ça s'arrête. Il y a des gens qui voulaient qu'on continue de pouvoir dégriffer. Mais très souvent, c'était des gens de notre propre profession qui n'étaient pas bien informés. Parce qu'une fois que tu es bien informé là, de tout ce que ça comporte comme problème de dégriffer un chat, tu ne veux plus jamais en dégriffer.
Oui, tu n'es plus sûr. Là.
Non, parce que, entre autres, puis c'est juste un exemple, un chat dégriffé a beaucoup plus de chances de mordre. Puis une morsure de chat, là, si vous faites mordre et que ça pénètre la peau, que ça passe à travers, vous allez à l'hôpital immédiatement. Il y a un protocole pour les morsures. Fait que, ça veut dire quoi? Vous allez repartir avec des antibiotiques. Il n'y a pas de niaisage à avoir avec une morsure de chat parce que c'est super dangereux. Okay. Ça peut se rendre loin. Fait que moi, je ne dis pas que je veux que les gens se fassent griffer, mais si on a à choisir entre une griffure et une morsure, on choisit la griffure.
Oh, c'est intéressant.
Oui.
Quand on pense vétérinaire, bon, veut pas, on pense souvent à notre portefeuille. Hein, ouais. On va en jaser d'argent. Tu en as jasé avec des collègues vétérinaires aussi. Mm-hmm. Et puis, on en parlait ensemble hier. Qu'est-ce qui dérange les vétérinaires quand on parle d'argent? Parce que c'est sûr que pour le citoyen, c'est la première chose qui vient en tête. Il y a des gens qui n'osent pas faire soigner leur animal, malheureusement, parce qu'ils ont peur du prix au bout du compte.
Ben oui. Je tiens à dire que je comprends très bien les gens, comme tu dis, les citoyens, de trouver ça cher. Je ne veux pas nier ça. Au même titre que tantôt, vous étiez en train de parler du prix des coiffeurs.
Totalement.
C'est un choix. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup. Je comprends, là. Cette réalité-là, je la comprends. Maintenant, mettez-vous à la place d'un vétérinaire qui, à chaque fois qu'il y a une entrevue à la radio, un article dans le journal, une discussion avec un inconnu sur un coin de rue, peu importe, il n'y a pas une fois où on finira pas par nous demander de justifier. On ne nous dit pas ça de même, mais tu sais, on nous parle d'argent dans une approche plutôt, je dirais, accusatrice. Mmh. Fait qu'on se met dans une posture de défense. On doit défendre notre profession, défendre pourquoi ça coûte cher.
En passant, les dentistes vivent la même affaire. Là. À chaque deux ans, il y a toujours des nouveautés dans les cabinets de dentistes avec des appareils qui viennent de sortir et tout ça. Puis les dentistes essaient de rester à la fine pointe de la technologie.
Oui.
Ce qui fait en sorte qu'il faut qu'ils ajustent ses prix aussi avec l'équipement qu'il y a en place. Puis si, c'est sûr qu'un vétérinaire qui est dans un village versus un vétérinaire qui est en plein centre-ville avec les taxes municipales et tout ça, ils n'ont pas les mêmes frais.
Oui, oui. Ouais. Puis je vais ouvrir une petite parenthèse peut-être un petit peu plate, mais le taux de suicide chez les professionnels est le plus élevé chez les dentistes et les vétérinaires.
Ah oui?
Oui, oui. Fait que... Peut-être aussi qu'on se fait dire des choses blessantes, tu sais, là. Peut-être qu'à un moment donné...
On va être francs, là. Les gens, on se fait crosser. Ouais, on entend de toutes sortes, là. Oui, ça fâche, là.
Puis je te dirais que...
Mais en même temps, regarder le monde la bouche ouverte à longueur de journée, ça peut être...
Oh, mon...
Ils méritent leur argent.
Ils méritent leur argent, pas pire, oui.
Oui. Mais c'est ça. C'est sûr que le sujet du suicide chez les vétérinaires est un sujet très complexe. Ouais, ça, oui. ça prendrait toute une émission juste pour l'expliquer. Mais il reste que je trouve que ça parle un peu, là. C'est le métier qu'à peu près tous les enfants vont avoir dit au moins une fois dans leur vie, je vais être vétérinaire plus tard, puis c'est le métier où il y a le plus haut taux de suicide. Mm. Fait que il y a comme quelque chose là qui y a une dissonance en quelque part
quand
là, là-dedans.
Quand vous faites une prescription, est-ce que on peut prendre le médicament chez vous ou est-ce qu'on peut prendre le médicament en pharmacie?
Ça dépend du médicament, je te dirais. Ah il y a des médicaments, mettons je prescris de la prednisolone 5 mg, elle se vend en pharmacie autant que je peux l'avoir dans ma pharmacie, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le goût, en sortant du vétérinaire, d'aussi devoir aller faire la file à la pharmacie, etc. Fait que nous, puis des fois, on en a besoin pour des patients hospitalisés. Fait qu'on a une pharmacie intégrée à l'hôpital, mais certains médicaments, vous pouvez, quand vous allez chez votre vétérinaire, vous informer, tu sais, est-ce que ça se fait aussi pour les humains? Si oui, est-ce que je peux avoir une prescription en externe pour aller à la pharmacie? Maintenant, il y a des médicaments, des fois, qui sont... pour les animaux spécifiquement, tu sais, puis que c'est pas facile à retrouver ou que la pharmacie pourrait peut-être avoir, mais que ça va leur prendre un délai, mais l'animal en a besoin tout de suite. Fait que nous, on a toute la médication que normalement on a besoin pour à peu près tous les problèmes de santé, mais c'est ça, on peut demander pour aller à la pharmacie, c'est une possibilité, puis nous, on peut pas empêcher les gens de demander la prescription, c'est leur droit.
Mais tu sais, Gravol, Tylenol, c'est des affaires que tu peux donner à ton chien, ton chat. Si on entend ça des fois, je vais lui donner des Gravol, ouais. Là, il a mal au cœur en voiture.
Okay? Ouais, ben ça, il faut faire attention à Dr Google, hein, parce que ben puis encore là, je suis la première à aller googler à peu près tout. Comme, tu sais, je vous ai googlé hier, puis...
Non, mais au moins, t'as rien trouvé sur moi.
Non, rien de suspect, là, tu sais. J'avais pas eu assez de temps pour gratter, là.
Ouais, c'est ça.
Mais bref, c'est ça. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, pour éviter les frais vétérinaires qu'ils trouvent trop élevés, vont se détourner vers Google puis essayer de se débrouiller par les moyens du bord. Mais là, le problème que nous, on a, c'est que souvent, l'animal, s'il est significativement malade, là, assez pour que le client le voit qu'il est malade, bien, il va retarder le temps aussi, le temps qu'il fait ses essais maison, là, tu sais, avec les conseils de monsieur, madame, tout le monde, bien, il ne viendra pas à la clinique. Puis là, on sait qu'un rendez-vous, on n'a pas ça nécessairement dans la même journée. Fait que là, quand il va arriver en clinique, l'animal va être beaucoup plus malade et ça va probablement coûter encore plus cher le soigner rendu où il va
fait
être.
Que c'est pas la bonne idée, là.
Non, puis sans compter, là, tu as parlé de Tylenol, bien, ça, c'est un classique en médecine vétérinaire. Un client qui ne connaît pas ça puis qui s'en va donner du Tylenol à son chat malade, bien, le chat, il était malade de, on ne sait pas quoi, mettons, un diabète, puis en plus, il est intoxiqué au Tylenol. Fait que, waouh, ça va bien, là, tu sais.
J'ai plein de questions qui me viennent en tête, là. Par rapport à ça, quand est-ce que tu vas voir un vétérinaire puis quand s'inquiéter pour un animal? Parce qu'il y a un texto qui est rentré puis je voulais qu'on en parle de ça, la disponibilité aussi, l'accessibilité, parce que je pense qu'il y a l'argent qui fait réagir les gens, mais il y a le fait aussi qu'il manque, j'ai l'impression, de plus en plus de vétérinaires. T'sais, en tout cas, nous, trouver une clinique, ça a été épouvantable.
Ouais.
Fait qu'est-ce que tu fais quand tu as un enjeu avec ton animal?
Ouais, bon. Là, il y avait quand même beaucoup de questions en une. Je vais commencer par la disponibilité des vétérinaires.
Je t'ai bombardé, hein?
Non, mais c'est correct, c'est parce que je ne me souviens pas des autres. Fait que je vais commencer par ça, je me rappelle. Fait que la disponibilité. Bon, premièrement, c'est un peu moins pire là. OK? Ceci dit, je ne dis pas que c'est facile d'avoir des rendez-vous, mais on a comme eu une grosse période où là, c'était vraiment c'était l'apocalypse. Là, tu sais, là, les animaux étaient malades, on ne savait juste plus où les envoyer. On pouvait plus personne les recevoir. C'est compliqué. Mais en fait, ça ne vient pas tant de l'augmentation du nombre d'animaux, quoique oui, tu sais, il y a certains changements à ce niveau-là, mais ce n'est pas ça qui impacte le plus. C'est beaucoup plus le manque de ressources. Autant les vétérinaires que le personnel de soutien, là, les gens qu'on appelle les techniciens en santé animale, les animaliers, animalières, tout le personnel des cliniques, on est beaucoup à bout de souffle. Là, là. Puis ça, là, il faut savoir, c'était avant la pandémie. La pandémie, là, elle n'a rien amélioré pour nous. Là. S'il y a de quoi, elle a juste empiré. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont remis en question leur choix de carrière, qui ont décidé de continuer d'être vétérinaire, mais de faire autre chose. Il y a des gens qui ont carrément lâché la pratique. Il y a de tout. Mais il n'y a pas eu plus de vétérinaires qui ont gradué. Puis tantôt, on parlait d'une réalité, tu sais, que quand moi, j'ai gradué en 92, très peu de gens se destinaient à aller vers des spécialités. Donc, ces gens-là, ils rentraient massivement. En tout cas, on rentrait dans le marché du travail pour être des généralistes. Mais là, aujourd'hui, dans une cohorte de 70, c'est à peu près ça, 75 peut-être, vétérinaires qui graduent au Québec, bien, il y en a là-dedans qui vont aller travailler au gouvernement, d'autres dans les grands animaux, d'autres, tu sais, dans plein de choses. Et certains vont vouloir se spécialiser, vont partir aux États-Unis, vont pas nécessairement revenir au Québec après. Fait que, tu sais, ça fait qu'il y a une petite mini poignée de vétérinaires qu'on soupoude à travers le Québec. Tu sais, là, c'est pas beaucoup, là, tu sais. Tu sais, quand tu dis quelques dizaines de vétérinaires de plus chaque année, mais là, on a commencé à essayer de voir avoir des... Bon, il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur du Québec, France, des gens de la France, on en avait quand même déjà beaucoup, des gens du Mexique maintenant. Fait que, tu sais, ça va devenir plus une plus grande variété d'origine, si je peux dire. Mais c'est pas la solution parfaite non plus, là. Tu sais, il faudrait qu'il y ait plus de ressources pour qu'on puisse souffler enfin un peu. Et là, l'accessibilité, ben, c'est parce qu'à un moment donné, le vétérinaire, il a déjà pas le temps de dîner, des fois pas le temps de souper, il dépasse souvent de plusieurs heures chacun de ses corps de travail. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il vive.
Il va falloir que tu reviennes, Natacha, parce qu'on a encore un milliard de questions.
Mais Seigneur, il y a tellement d'auditeurs qui posent des questions.
On va terminer avec ça, Natacha Barrette. Tu as décidé de te spécialiser, toi, en tant que vétérinaire. Tu ne fais plus de clinique, tu te déplaces chez les gens maintenant.
Oui, en fait, c'est pas une spécialité reconnue. Je le dis parce qu'il y a un aspect légal là, qui se rapporte au fait de se nommer spécialiste. Donc, ça n'existe pas, cette spécialisation-là. Mais on va quand même l'utiliser juste pour qu'on se comprenne. Moi, j'ai décidé de... J'appelle ça ma mission, en fait. Ma mission maintenant, aujourd'hui, c'est d'offrir à la population de Québec et des alentours la possibilité d'avoir un euthanasie à la maison pour leur chat ou leur chien. C'est sûr que je couvre un grand territoire. C'est sûr que je suis toute seule. Je ne peux pas nécessairement me téléporter d'un endroit à l'autre. Je fais mon gros possible. J'essaie de garder mon équilibre aussi mental dans tout ça. Et je le fais parce que je considère que pour le bien des animaux. Je ne dis pas qu'en clinique, les gens qui font l'euthanasie ne le font pas bien. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il y ait de l'euthanasie disponible dans toutes sortes de modèles différents, mais moi, j'offre aux gens la possibilité que j'aille à domicile euthanasier leur animal pour pas qu'ils soient stressés. C'est beaucoup ça. Tu sais, un chat dans un transporteur, dans une auto pour aller chez le vet, c'est jamais très winner, là. Puis il y a ben, des chiens aussi, où il y a des chiens qui sont plus capables de se déplacer aussi, des grands chiens, mettons un Terre-Neuve qui est plus capable de se lever.
Mais je trouve ça intéressant puisque l'animal, ça a toujours été sa résidence, donc il ne se fait pas changer de place. Il est chez lui, il est en compagnie des gens qu'il aime. Il n'y a pas grand monde autour de lui qui ne connaît pas. Je trouve ça intéressant comme approche. Donc toi, tu arrives, tu procèdes. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec l'animal par la suite?
Bien, en fait, il y a trois possibilités. Rarement, il y a des gens qui vont vouloir conserver la dépouille et eux-mêmes aller la porter au crématorium. Ou il y a un cimetière sur la rive sud. Certains clients font affaire avec le cimetière. Ou l'enterrent dans une terre. Ils ont des terres agricoles parfois. Il faut faire attention. Cependant, si vous voulez garder une dépouille, il faut s'informer avant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a le droit légalement d'enterrer un animal. Puis aussi, il faut le faire d'une façon particulière.
Je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'enterrer mon animal compagnie
Non.
Sur mon terrain. Ah, ouais.
Non. Ceci dit, y a-tu des moyens de contourner ça légalement? Je ne sais pas. On peut-tu demander l'autorisation? Je ne sais pas. Ce bout-là, ça ne m'appartient pas. Mais il y a des gens, donc, qui gardent la dépouille pour toutes sortes de raisons.
Je ne savais pas qu'il y avait un cimetière non plus à Lévis pour les animaux.
Mais écoute, je pense que toutes les lots ont été vendus. Mais moi, j'ai des gens qui ont des lots et à chaque fois qu'il y a un nouvel animal qui décède, il s'en va sur ce lot-là. Après ça, sinon, moi, je repars avec la dépouille dans mon véhicule. Elle est placée dans une housse mortuaire qui est étanche, qui est respectueuse. Puis je l'amène dans un hôpital vétérinaire pour l'entreposer et le crématorium passe chercher pour soit une crémation individuelle, donc les gens qui veulent ravoir les cendres de leur animal avec ou sans urne. Et sinon, il y a une crémation, mais elle est commune à ce moment-là. Donc, commun dans le sens qu'ils sont plusieurs là, à se faire incinérer en même temps. Donc, c'est comme ça là, que...
Moi, j'ai un membre de la famille qui travaille pour une entreprise où ça fait partie un peu du travail des chauffeurs, des fois, d'aller chercher les dépôts les vétérinaires. Puis c'est vraiment, effectivement, ça, là, une crémation commune pour les gens qui ne veulent pas garder nécessairement l'animal.
Je tiens à dire une chose, parce que la question m'est souvent posée. On me dit, mais tu sais, si je choisis commune, est-ce qu'ils ont le même respect de la dépouille et tout ça? Non, c'est pareil. C'est juste que rendu au crématorium, il y a une distinction qui va se faire entre les dépouilles, mais c'est pas un manque de respect que de choisir pour commun. C'est que des fois, les gens, ils veulent pas avoir les cendres, ils veulent pas ce genre de souvenir-là, ne leur fait pas de bien, puis c'est bien correct, on veut pas avoir les cendres.
Natacha Barrette, on fait comment pour te rejoindre?
On peut aller sur ma page Facebook pour suivre mes publications, et sinon, je suis rejoignable en remplissant un formulaire sur le site web www.monvetalamaison.ca.
Même chose pour ce qui est de Facebook, c'est Mon Vet à la maison.
Oui.
Ça a été un plaisir de te rencontrer, puis on cédulera un autre rendez-vous dans les
prochaines
semaines.
On n'a pas le choix, parce que là, il y a plein de questions sur les assurances qu'on n'a pas abordées, les élevages. Fait qu'on va avoir de la jasette à faire.
11h01, on revient, merci.
Isabelle dans le